Chers amis, une grande première après quelques mois de silence et d'hôpital pour moi. On reprend les cours et là on fait un live depuis chez moi à la maison. Ça c'est vraiment une grande première. On va parler de l'actualité que je pense brûlante bientôt. Auparavant, j'aimerais bien vous parler de deux petits chidushim, de petites explications comme ça sympathiques. Une que j'ai entendue il y a quelques jours et après une autre information. La première que j'ai entendue il y a quelques jours, d'abord attention, je vais parler du Mashiach, mais vous savez que je ne sais pas quand Mashiach vient. Tout ce que je dis, ce sont toutes des projections possibles, mais pas du tout certaines. Jusqu'à aujourd'hui, chaque fois que je dis quelque chose, je me suis trompé. Preuve en est que Mashiach n'est toujours pas là. Il y a un verset dans la Torah, « Vasu le mikdash v'shachanti betocham » Vous me ferez, ils me feront un mikdash, un temple, et je demeurerai parmi eux. La présence divine demeurera parmi nous, au Mikdash, au temple. Si on prend le mot Veshachanti, et je demeurerai, on peut le partager en deux. Ça fait Veshachanti. Veshachan, ça signifie il demeurera. Ti, ce sont deux lettres. Taf, Yud. Taf, ça vaut 400. Yud, ça vaut 10. Ça fait en tout 410. Je demeurerai 410. Qu'est-ce que c'est le premier temple? Le premier temple a existé 410 ans. Donc on a ici un signe de la présence de Dieu dans le temple, le premier temple. Ensuite, si on prend du mot Veshachanti, pour ceux pour qui c'est difficile de comprendre parce que c'est en hébreu, on va enregistrer cela et le mettre sur le site avec des lettres qui expliquent que ce sera beaucoup plus simple. Donc vous irez dès demain déjà le voir cette partie-là. Alors, Veshachanti, si on prend les lettres Kaf Nun du mot Veshachanti, Kaf, ça vaut 20, Nun, ça vaut 50, ça fait 70. Et il reste le mot Vashti. C'est qui Vashti? C'est un des personnages de la Megillat Esther, du début de la Megillah. Et l'épisode de Megillat Esther a eu lieu à la fin de l'exil qui avait hanté le temple, qui a duré 70 ans. Donc 70 égale Vashti, c'est très bien. Après, si on prend les lettres du mot Veshachanti, les lettres Vesheni et le deuxième, on parle quoi du deuxième temple? Il reste les lettres Taf, Kaf. Taf, c'est 400, Kaf, c'est 20. Ça fait 420. Le deuxième temple a existé pendant 420 ans. C'est fantastique. Donc, dans ce mot Veshachanti, on parle du premier temple, du deuxième temple et de l'espace qui entre les deux. Maintenant, le mot entier, Veshachanti, ça correspond à quoi? Ça correspond au chiffre 786. Ça veut dire cette année-là, que Mashiach viendra cette année avec l'aide de Dieu. On espère. Deuxième petite information. Pour moi, elle date d'environ Rosh Hashanah, où j'ai un de mes rabbinim à la yeshiva, qui étudie avec un grand Rosh Hashiva Sfarad, peut-être le plus grand Rosh Hashiva de la plus grande yeshiva Sfarad qui est en Israël, je ne vais pas dire son nom, qui est un homme très sérieux et qui ne parle jamais, 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 jamais du Mashiach. Et ce Rav de ma yeshiva, qui étudie avec ce Rosh Hashiva, une fois par semaine, il y a un cours. Son fils, le fils du Rav de ma yeshiva, il était très très proche du Rosh Hashiva, Sfarad. Et il est parti habiter en Amérique. Et deux, trois jours avant Rosh Hashanah, il appelle son Rav, le Rosh Hashiva Sfarad, pour le souhaiter Shana Tova, bonne année. Alors le Rav lui dit, mais dis-moi où tu es, il s'appelle Yaakov. Yaakov, où es-tu? Ben, je suis en Amérique. Viens. Qu'est-ce qui se passe? Viens, Mashiach est là. Moi, j'ai cru que Mashiach viendrait à Rosh Hashanah, ou à Sukkot, ou à Kippour. Il n'est pas venu. Mais ce rabbin, il ne parle jamais du Mashiach. En plus, un grand kabbaliste. S'il a dit Mashiach est là, c'est donc que Mashiach est là. Quand il se dévoilera, je ne sais pas. Mais je pense que c'est pour bientôt. Et bien sûr, je peux me tromper.
Passons maintenant à l'actualité. Tout le monde ressent que l'actualité, elle est très très tangente. Il y a de la tension un peu partout. On ne sait pas vers quoi ça va aller. Je vais vous dire ce que je pense, mais savoir que je peux me tromper. Je ne suis pas un prophète. Je vais me baser sur les textes. On ne sait pas si c'est maintenant, mais peut-être. Il y a deux points dont je veux parler. Je veux parler de l'Iran et de Ismaël, le monde arabe qui nous entoure ici en terre d'Israël. On va commencer par l'Iran. L'Iran, à mon avis, c'est Amalek. Amalek, C'est le premier peuple qui a attaqué le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël sort d'Égypte, n'a rien fait à personne, on n'a pas attaqué Amalek, et Amalek vient depuis extrêmement loin nous attaquer. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas supporter qu'il y ait un dévoilement de Dieu aussi grand comme il y a eu à la sortie d'Égypte. C'est un ennemi de Dieu, le pire. C'est pour cela qu'il y a une mission dans la Torah, de ne pas oublier ce que nous a fait Amalek, pour toujours se souvenir, et le jour où il faudra les anéantir. Moi, je pense que c'est l'Iran. Pourquoi ? Parce qu'on n'a aucun peuple au monde qui est, a priori, n'a aucun contact avec nous. L'Iran, c'est presque 2000 km d'Israël. Il y a deux grands pays qui nous séparent, la Syrie et l'Irak. On n'a pas pris de leur terrain, on n'a pas pris de leur pétrole, on n'a pas pris de leur air, on n'a rien pris de qui leur appartient, rien. Et pourtant, on peut dire que c'est le pire ennemi d'Israël. Ils construisent des missiles, des milliers de missiles, rien que pour nous, rien que contre nous. Ils transmettent des armes sans cesse maintenant au Liban, aux Syriens, à l'Irak, aux Houthis, au Hamas. C'est eux qui sont derrière tous ces pays et toutes ces armées. Pourquoi cette haine ? Pourquoi cette haine ? C'est pas normal. Amalek. Et de plus, il est marqué « Réchit Goïm Amalek », c'est le premier des peuples qui est venu en guerre contre nous, « Bacharito Adéoved », à la fin disparaîtra. J'espère qu'on approche très bientôt de la fin. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, ils ont un très gros problème d'eau, comme tout le monde le sait. Cette semaine ou la semaine prochaine, peut-être il n'y aura plus d'eau à Téhéran. 9 millions d'habitants, pollution terrible. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a de fortes chances que ça entraîne une révolution. Et il y a de fortes chances que cette révolution entraîne une attaque d'Israël. Que le gouvernement se dise, si c'est comme ça, on ne va pas se laisser faire. Notre but, c'est d'attaquer Israël. Et regardez ce qu'ils ont mis. Pourquoi le peuple n'est pas content ? Parce qu'ils ont agi vraiment comme Amalek. Amalek, il attaque Israël. Et c'est écrit dans le verset, « Karcha Bader » qui t'a refroidi sur le chemin. C'est quoi refroidi ? Il y a trois explications. Une des trois, c'est que Israël ressemblait à un bain bouillant. Personne ne pouvait mettre le petit doigt, il était ébouillanté. Amalek vient, saute dans la baignoire, est ébouillanté, mais il a refroidi la baignoire. Il a montré au peuple, regardez, c'est pas un peuple invincible. C'est ça le principe d'Amalek. Il est prêt à se suicider lui-même pour vaincre Israël. Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé. Pourquoi il y aura une révolution en Iran ? Parce que le peuple va dire, on ne comprend pas. Vous mettez des millions et des millions et des milliards pour des missiles contre Israël. Et vous armez toutes les armées autour d'Israël, ça coûte beaucoup d'argent. C'est des missiles très 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 sophistiqués qu'ils ont. Et vous oubliez le peuple. C'est pas trop compliqué de mettre quelques usines de dessalage, on prend l'eau de mer, on la change en eau potable, et voilà, on aura de l'eau. Non, on fait pas ça. Le peuple va se révolter. Et c'est typiquement amalécite. Quoi ? Je suis prêt à me suicider. 9 millions d'habitants qui n'auront pas à boire, mais je continue encore actuellement. Ils sont en train de passer des armes sans cesse au Liban, en Syrie, etc. Ça coûte beaucoup d'argent. On a un but. Battre Israël, quoi que ça coûte, même au prix où nous, on va être ébouillants. C'est typiquement amalécite. Le Midrash, Yalkut Shimoni, Yeshaya 499, dit comme ça, dit Rabbi Yitzhak, l'année où Machar se dévoile, tous les peuples du monde sont en tension les uns avec les autres. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup de pays en tension. L'Iran est en tension avec le pays d'Arabie. Quelle Arabie ? Je pense à l'Arabie saoudite. Ce sont des sunnites. L'Iran, ce sont des chiites. Ils se haïssent. Et très souvent, il y a une tension très grande entre les deux. D'ailleurs, le Midrash continue et dit « Le roi d'Arabie va prendre conseil chez Edom. » Edom, c'est l'Occident. Le dirigeant de Edom, c'est l'Amérique. À mon avis, c'était pendant le G7. Il y a eu un G7 cette année. Et nous, on était en guerre avec l'Iran. Pendant le moment où tous, beaucoup d'armées ont attaqué l'Iran. Et à un moment, à ce G7, Trump, il part. tout d'un coup comme ça. On ne sait pas pourquoi. En fait, il a reçu un avertissement de la part de l'Arabie qu'ils étaient au courant que l'Iran les menaçait d'attaquer à cause de cette guerre. Alors Trump est allé, il a calmé, il a donné 2 semaines de réflexion, etc. Et comme ça, il n'y a pas eu d'attaque sur l'Arabie saoudite. Il se peut que ça le sens de Midrash, que l'Arabie saoudite va prendre conseil chez Edom, et ça s'est calmé. Mais le Midrash continue. Il dit « Choser Meler Paras, revient le roi de Perse ». Si c'est marqué qu'il revient, ça veut dire qu'il s'est arrêté. Il s'est arrêté, ça fait quelques mois qu'il s'est arrêté. Il construit des armes. Il revient et détruit le monde entier. Comment l'Iran peut faire pour détruire le monde entier? D'abord, il va nous attaquer à nous. Et les généraux israéliens ont dit qu'ils savent que l'attaque sera beaucoup plus difficile que celle d'il y a quelques mois. De plus, ils peuvent bombarder les terrains pétrolifères saoudiens comme ils l'ont fait il y a quelques années. Et là, c'est clair que le prix du pétrole va flamber et ça peut complètement démolir l'économie mondiale. Ils peuvent fermer le détroit d'Ormuz. Là aussi, c'est 30% ou 35% du passage de pétrole mondial qui a lieu là-bas. Et certainement, ça fait tellement de temps que l'Iran se prépare à cela, c'est fait partie de leur Bible, d'accord ? Ils croient au Mahdi. Mahdi, c'est le Mashiach, mais pas le nôtre, le leur, qui doit venir par le biais de guerres dans le monde entier. Donc on se prépare pour ces guerres. Donc certainement, il y a beaucoup de cellules iraniennes en Amérique, en Europe, pour faire tout sauter. Donc, nous sommes proches de cela. Pourquoi je dis que nous sommes proches ? Ce message a été écrit il y a 2500 ans. Parce que il y a le problème de l'eau. Il faut comprendre que toutes les guerres que nous avons ici avec nos voisins arabes, tout cela est dirigé par l'Iran. C'est eux les responsables. Donc Dieu va venger, je sens qu'il n'a pas encore vengé, avec les problèmes d'eau, etc. Regardez, c'est vraiment la main de Dieu. La Gemara, au début du traité de Megillah, a dit qu'il y a 3 choses qui dépendent de Dieu. Une des 3 choses, c'est la pluie. Et il n'y a pas de pluie, et pas de pluie, et pas de pluie, et pas de pluie. C'est vraiment la main de Dieu. Il faut savoir que très souvent, nos ennemis ont été détruits par Dieu et pas par nous. La Syrie, tout de coup un beau jour, Assad part en Russie, les Russes partent en Russie, le pays reste vide. Comme ça, l'Irak, Bush vient avec son armée, détruire l'Irak. Pourquoi ? Vraiment pas pour lui, pour nous. D'accord ? Là aussi, tout à coup, il n'y a pas d'eau en Iran. C'est clair que c'est une action de Dieu. Vers quoi va mener ? On va voir dans les jours qui suivent, mais il n'y a pas longtemps. Et si, comme je crois, ils vont faire un acte de diversion, ou bien, comme je suis en train d'expliquer dans le verset de Yoël, Dieu va venger le sang qui n'a pas été vengé. Et la fin du verset, Hachem est à Sion. Et Dieu demeure à Sion. Les commentateurs posent la question, quel rapport entre le début du verset qui dit que Dieu va se venger, et là, qu'il demeure à Sion. Les commentateurs expliquent et disent comme ça. Lorsque nos ennemis, donc on parle ici de l'Iran, verront que c'est leur fin, il n'y a plus d'eau, il y a une révolution, c'est terminé. Foutu en bon français. Disent les commentateurs, ils ne vont pas se dire on meurt comme ça tout seul. On meurt avec nos ennemis. Ils vont envoyer des missiles contre Israël pour détruire Israël, à dire on ne va pas mourir tout seul. Et le verset dit, n'aie pas peur. Hachem Shochan Zion, Dieu demeure à Sion. Et on sera protégé. La vérité est, j'espère que tout le monde sera protégé, mais ce n'est pas du tout clair. Il se peut que seulement ceux qui sont à Sion ou ceux qui sont proches de Dieu vont être sauvés. Parce que si c'est Mashiach qui vient bientôt, comme je le pense, il y a une sélection. Pas tout le monde verra Mashiach. Donc il y aura une pression très grande et les gens devront commencer à décider dans quel camp ils sont. Il y a la sélection d'Israël, pas beaucoup, mais il y en a des juifs anti-juifs. Anti-juifs, vraiment. Il ne mérite pas de voir Mashiach, à moins qu'il fasse Tshuva, Bezrat Hashem, c'est ce qu'on espère. On a fini avec l'Iran, et on passe maintenant à Ishmaël, les Arabes qui nous entourent. Il faut comprendre que Ishmaël, ce n'est pas un peuple habituel, du tout. À la fin de Parashat Chayei Sara, on a un commentaire du Tour. Le Tour, c'est Rabbi Yaakov ben Asher, un très très grand rabbin au Moyen-Âge, Et d'ailleurs, il est la base de la halakha. Shulchan Aruch écrit sur la base du livre qu'il a écrit, le Bala Tzuri. Et il a fait un commentaire sur la Bible, dans toutes les Bibliées. T'as Rashi et t'as le Tour. À la fin de Parashat Chaye Sara, c'est écrit comme ça. On parle de l'Ishmaël, et on dit, le dernier verset dit dans quelle région ils vont habiter, et c'est écrit Al Pne Kolechav Nafal. En face de ses frères, il s'est étendu. Étendu dans le sens, leur tente, d'accord, ils ont étendu leur tente. Leur peuple viendra le Mashiach, qui est la descendance de Yitzhak ben Avraham. Donc nous attendons de voir tomber Ishmaël. En tout cas, les parties d'Ishmaël qui sont opposées à Israël et qui nous font tellement de mal depuis tellement de temps. Ishmaël, il est différent des autres peuples. Les peuples dans lesquels on était en exil, c'est donc d'abord l'Irak, Babylonie, après la Perse, après la Grèce, et après Édom. Édom, c'est Rome, et depuis 2000 ans, on est considéré dans l'exil de Édom, de Rome, de l'Occident. Ces peuples-là ont reçu leur puissance du fait que Israël a été détruit. Babel a détruit le premier temple. Notre puissance est tombée et placée dans les mains de Babel, qui a été transmise dans les mains de la Perse, la Grèce et Rome. Ishmaël, c'est pas comme ça. Ishmaël reçoit sa force de la part de Dieu. Dieu promet à Abraham, je bénirai ta descendance. À l'époque, la descendance d'Abraham, c'était que Ishmaël. Donc il est béni par Dieu. Donc il a une puissance que les autres peuples n'ont pas. D'ailleurs, on voit que le seul peuple qui a réussi à avoir une maîtrise de la terre d'Israël pendant les deux derniers millénaires, un peu moins. Ensuite, il est circoncis, chose qu'aucun autre peuple n'est. Il n'est pas circoncis complètement. Alors, l'histoire dit qu'à cause de ça, lorsqu'il aura la maîtrise de la terre d'Israël, mais ce n'est pas de façon que la terre sera riche, elle sera vide, de même que leur Brit Mila, elle est vide de sens, elle n'a pas de sens. Il y a un télim qu'on dit tous les jours dans la prière, c'est le 124, où on dit « Si ce n'était Dieu qui était là pour nous sauver, dira Israël, c'était Dieu qui était là pour nous sauver d'un homme. » Et la Kabbalah, Rabbi Hamital, dit « C'est qui cet homme-là? C'est Ishmaël. » Alors on aurait été ratatiné. On aurait été ratatiné. « Sauve-nous, Dieu qui a créé le ciel et la terre. » Comme on va voir, Ishmaël, il est très puissant et il va nous mettre en danger terrible. Enfin, Ishmaël, c'est le seul peuple qui a en lui le nom de Dieu. Ishmaël. Dieu l'écoutera. Donc il a un certain pouvoir que n'ont pas les autres peuples. C'est pour cela que on a eu des problèmes avec eux. On a eu les quatre royautés d'exil, mais c'est fini l'exil. Voilà, on est rentré. On a eu des problèmes avec eux. Et à mon avis, c'est avec eux qu'on aura les derniers problèmes. Qu'est-ce que c'est que le dernier problème? C'est la guerre de Gog ou Magog. Il est écrit qu'une des quatre choses que doit faire le Mashiach, c'est gagner les guerres de Magog. Est-ce qu'il va se dévoiler avant ou pendant? Je ne sais pas. En tout cas, avant la fin. C'est écrit que c'est pour ceux qui veulent aller voir, c'est dans Yeheskel, chapitre 38 et 39. Un roi surnommé Gog, on ne sait pas qui c'est. Roi du pays surnommé Magog, on ne sait pas qui c'est. C'est marqué prince de Mesher et Tubal. Moi, je pense que c'est la Turquie. Pourquoi? Parce que Tubal, ça ressemble à Istanbul. Et on sait que Erdogan est un très grand antisémite, très puissant, et dernièrement, Israël a dit, notre pire ennemi, c'est la Turquie. Dieu a fait un miracle. À l'époque, tout de suite, ça m'a mis j'ai vu un signe là-dedans. En un jour, on a vu que Assad, le président de la Syrie, quitte la Syrie. Et les Russes qui étaient là-bas partent. Là, c'est le pays vide. J'ai dit, oulala, ça c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que entre Israël et la Turquie, qui y a? La Syrie. Maintenant, tant que la Syrie est puissante, la Turquie ne peut pas passer. Quand la Syrie tombe, les Turcs vont venir. Et regardez, actuellement, ils ont déjà beaucoup de camps militaires au nord de la Syrie. Et comme j'ai dit, Israël a dit, c'est notre pire ennemi. Ils ont 800 000 soldats. Erdogan est un antisémite notoire. Et il dit, nous voulons conquérir Jérusalem. Il le dit sans cesse, et leurs soldats aussi. 800 000 soldats, c'est énorme. L'armée normale israélienne, sans les réservistes, c'est environ 100 000 soldats. 800 000 et pas des paysans, d'accord ? Des très bons soldats, ils ont des très bons drones, extrêmement dangereux. Maintenant, non seulement cela, mais la Syrie, ce pays vide, il est en train de se remplir. De quoi ? Des armées d'Ismaël. Le Hamas envoie des soldats là-bas. Les Houthis envoient des soldats là-bas. Le Hezbollah envoyait des soldats là-bas. Il y a le djihad de Giuliani actuellement en Syrie. Donc tout cela, hein, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et un beau jour, ils vont décider de nous attaquer. C'est marqué qu'il y aura une union des peuples contre nous. Ben voilà. La vérité, c'est écrit qu'ils viennent du Nord. Et aussi de Kouch. Kouch, c'est l'Éthiopie. Qu'est-ce qu'ils viennent faire les Éthiopiens ? Alors le Malbim, un des plus grands commentateurs de la Bible, il dit, ce Kouch va voir dans Ézéchiel chapitre 32, là on est au chapitre 38, va voir chapitre 32, c'est avec l'Égypte. Et regardez maintenant l'Égypte, on avait un accord avec l'Égypte, ne pas rentrer une seule arme dans le Sinaï. Il y a plus de 1000 tanks là-bas. Donc ça peut tout à fait qu'il y aura une attaque de l'Égypte et de la Turquie avec tous les Ismaélites qu'il y a actuellement en Syrie, et ça c'est Gog ou Magog. Maintenant, cette guerre, ce n'est pas nous qui devons la gagner. Dans le texte, c'est Dieu qui se dévoile. Le Mashiach, c'est comme Moshe Rabbeinu, d'accord, il fait des miracles en Égypte par la force de Dieu. Il y aura une action de Dieu et tous les peuples du monde reconnaîtront l'existence du Dieu d'Israël. Et c'est la fin de l'histoire et Mashiach se dévoile. Donc il semblerait que c'est pour bientôt, je pense, parce qu'on voit qu'ils sont en train de se renforcer beaucoup en Syrie. Et la Turquie va en profiter pour attaquer. Quand ça sera, je ne sais pas, mais je pense que c'est pour bientôt. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Ça, c'est le point le plus important du cours. Eh bien, c'est écrit dans la Gemara que Bnei Israël ne peut être sauvé que s'il y a la Tchouba. Et s'il n'y a pas la Tchouba, il n'y a pas le repentir des péchés, alors Dieu va mettre un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman. Haman, c'était un descendant du roi du peuple qui a tellement fait de mal au peuple d'Israël, et c'était aussi le vice-président de l'Iran. Donc ça correspond tout à fait. Dieu mettra un roi dont les décrets sont durs comme ceux de Haman qui a voulu détruire tout le peuple d'Israël en un seul jour, et Bnei Israël feront tchouva. Baruch HaShem, actuellement en Israël, il y a un grand débat. Est-ce qu'on prend les élèves des yeshivot et on les met à l'armée ? Il semblerait qu'actuellement, il y aura un vote qui va permettre aux étudiants des yeshivot de continuer à étudier dans les yeshivot. Si c'est comme ça, on aura beaucoup d'aide du ciel avec l'aide de Dieu. Sinon, oulala.
Donc on attend Mashiach pour très bientôt. Maintenant, il faut savoir, Mashiach peut venir avec beaucoup de souffrance, à Dieu ne plaise, et peut venir sans aucune souffrance. Ça dépend de quoi ? Ça dépend de la tchouva. Comme j'expliquais, s'il n'y a pas de tchouva, alors Dieu amène un roi dur comme Haman. Mais s'il y a la tchouva, alors Mashiach, il vient sur un tapis rouge. Donc la mitzvah du moment, chers amis, c'est quoi la tchouva ? Je ne sais pas s'il y a un organisme en France, ou disons francophone, qui a fait autant de tchouva que ce que nous on a fait durant les 30 dernières années. Il y a quelques mois, j'ai failli mourir. Les médecins m'ont dit, prends tes petits-enfants, va aux zoo, regarde les singes, parce que c'est le dernier moment de ta vie, profite un peu de ce monde. Les singes, bon. Et Dieu m'a fait un miracle. Ils ont fait un dessin. J'ai fait un Imerai en français, RMI ? IRM. Ah, ils ont fait une tête, après ils ont fait noir comme ça, un gros machin comme ça. Encore, ça sortait partout, voilà, c'est ça que t'as. Ils m'ont dit numéro 4 du cancer. Aucune chance. Après, j'ai fait une biopsie. Et le professeur, il a dit, je ne pense pas que c'est 4, 3. 3 ou 2, plutôt 3. Mais il n'est pas certain, il a refait une deuxième biopsie. Et là, on a attendu 3 semaines pour avoir le résultat. Il l'a envoyé en Allemagne. Il a dit qu'il a pris des parties d'un peu partout. Et on a reçu le résultat, rien. Rien, rien. Mais la grosse tache noire, incompréhensible. J'ai refait un RMI il y a environ un mois, et on est allé voir donc ce grand chirurgien qui a dit, écoutez, nous les médecins, on est des peureux. On devrait vous dire, rentrez à la maison, tout va bien. Mais on ne sait pas. On ne peut pas être certain, parce qu'il y avait quand même cette tache noire énorme qui a disparu, on ne sait pas où. Mais il a dit que juste avant de nous rencontrer, moi et ma femme, il a vu tous les médecins, et les médecins ont levé les yeux vers le ciel. En Israël, les médecins sont très, très, très anti-religieux. Et que les médecins lèvent les yeux vers le ciel, ça veut dire que c'est un miracle extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a donné ces jours en plus de vie. Mais je pense que parmi les raisons, il y a une raison majeure. Moi, mon job, c'est quoi dans ma vie? Faire tchouva aux gens. C'est ça que j'aime, c'est ça que je fais, c'est ça que Baruch HaShem, Dieu m'a donné beaucoup de réussite dans ce domaine. Donc s'il m'a donné encore quelques, je ne sais pas, années de vie, c'est pour faire tchouva aux frères de mon peuple qui n'ont pas encore fait tchouva. Donc nous voulons maintenant mettre les bouchées doubles. On pense que Mashiach revient, je peux me tromper, mais il faut que le maximum de juifs fassent tchouva pour que Mashiach revienne vite et surtout qu'il vienne sans peine, sans effusion de sang. Et là, je fais appel à vous, mes chers amis. Pour qu'on puisse avancer, il faut le nerf de la guerre, c'est les moyens financiers. Donc dès ce soir, nous faisons une campagne, on va demander des moyens financiers, et on vous demande de participer parce que nous voulons la mission numéro 1 du peuple d'Israël aujourd'hui, c'est tchouva, tchouva, tchouva. Ça passe avant tout. Parce que s'il y a tchouva, il y aura tout. S'il n'y a pas tchouva, il y aura des souffrances terribles. On compte sur vous. Depuis le live qu'on a fait dimanche soir cette semaine, on a commencé une campagne dont vous verrez le lien en dessous noté.